Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
Interview. L'interview du jour.
Par contre, il faut toujours faire attention à ce qu'on manipule, c'est ça ?
Sinon, non, non, c'est bien, c'est la radio vivante. Tu as des papiers, tout ça. Bonjour Sébastien.
Bonjour Baptiste.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et à internet, www.rdwa.fr. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le site est tout neuf et que donc, si vous relevez des bugs, n'hésitez pas à nous le dire. Et notamment, c'était le cas. Voilà, je t'ai rendu compte que ton interview sur les vautours.
Les vautours avaient bugué, ouais, on ne pouvait plus écouter.
Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi tu voulais le mettre en avant ?
C'était pour en parler avec un chroniqueur de France Bleu qui m'avait déjà interviewé sur les vautours et qui était venu sur le terrain. D'ailleurs, on avait fait une sortie sympa et là, il voulait voir un peu. Je lui proposais peut-être de refaire un peu un approfondissement sur le sujet. Donc, je lui ai montré ce qu'on avait fait ensemble.
Parce que là, ça, c'est aussi des propositions de randonnée que tu fais encore ?
Toujours, voilà. Alors, hors saison, c'est à la demande. J'en ai eu une il n'y a pas longtemps de gens, des Parisiens qui était avec des amis du côté de Perpignan et qui était à la station du col de Rousset et pas trop de neige, quoi. Donc,
vautour, quoi.
Voilà, ça vaut le détour de venir faire un tour un peu plus bas et de voir les vautours. Ouais. J'ai eu un petit groupe, c'était sympa, ouais.
Sébastien Lantôme, donc accompagnateur en moyenne montagne. Tu travailles avec Vercors Escapade, par exemple, mais aussi tout seul.
Tout à fait.
Et là, pour parler d'une nouvelle sortie, une proposition. Autour des marches, on avait déjà un petit peu fait évoquer le sujet de la marche nordique ensemble dans une précédente interview.
Tout à fait, on avait vraiment parlé de la marche nordique et des séances que je propose, mais là c'est vraiment une journée particulière, une journée ponctuelle qu'on propose le dimanche 22 mars.
Les marches à suivre.
Les marches à suivre, voilà. Donc c'est un panorama non exhaustif, bien évidemment, de différents types de marches. L'idée, c'est qu'on a tous un peu des qualités, des compétences qu'on aimerait un peu partager. Voilà, moi, c'est la compétence marche nordique. Ça fait bientôt 2 saisons que je coach le club de Dynamic Gym.
Tu nous rappelles ce que c'est ?
Alors, la marche nordique, c'est une marche rapide avec des bâtons. Voilà, c'est nos amis finlandais qui ont toujours les bâtons scotchés au bout des bras et qui se sont dit, mais quand il n'y a plus de neige, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et ils ont commencé à marcher avec, même en été, et ils ont développé cette technique qui consiste à se propulser à l'aide des bâtons. Donc c'est une marche beaucoup plus complète que la marche sans bâton.
Donc les bras travaillent.
Voilà, les bras travaillent, le haut du corps travaille. Et donc voilà, on a une mobilisation d'après les théories, 85% des muscles. Donc c'est une activité beaucoup plus complète que la marche unique qui flirte avec les 50% de muscles.
Et je me rappelle d'une question que je n'avais pas posée à cette interview. Est-ce que ça se rapprocherait, selon toi, d'une discipline, j'allais dire nautique, enfin, on dit que souvent la nage est très très complet, vient comme ça toucher tout un tas de muscles différents. Et comme là, visiblement, avec ce mouvement des bras, on a l'air d'aller vers quelque chose comme ça. Tout ça pour casser un peu la frustration de toutes ces personnes qui n'ont pas de piscine couverte. T'as dit, voilà, il y a la marche nordique.
Tout à fait. Non, mais c'est marrant ce que tu me demandes parce que c'est souvent, je me revois dans les positions en cherchant les positions de mon corps en kayak. Moi. Je retrouve un peu les positions d'épaule et le travail du haut du corps qui est nécessaire avec la pagaie et que je retrouve avec les bâtons, ouais.
Donc c'est un autre sport nautique, mais ça marche aussi. Alors.
C'est ça.
Ouais. Donc voilà, ça c'est la marche nordique, donc c'est ta proposition, et puis tu nous présentes les autres. La marche afghane.
Alors la marche afghane, voilà, j'ai découvert ça par l'intermédiaire d'un collègue, Eric.
Faut pas faire de mauvaises blagues là, je crois.
Alors on peut s'amuser, comme ça c'est fait, on s'en débarrasse. Hein. Donc c'est pas une marche où on a une kalachnikov en bandoulière et on a un gros pétard au coin du bec. On s'en débarrasse, voilà. C'est une marche qui a été théorisée par un chargé de mission de l'ONU, M. Stigler, qui a observé là-bas des nomades, les Kutchi, et qui s'est aperçu que c'était des gens très endurants, qui pouvaient marcher jusqu'à 70 km dans la même journée. Ils peuvent faire des 700 km d'une traite pour les besoins de leur déplacement. Et un jour, les observant au marché d'un petit matin, c'est déjà très poétique, là, on imagine qu'il y a la petite brume qui caresse le paysage, et ces nomades qui marchent, et donc la fumée qui s'échappe de leur bouche a donné un peu la puce à l'oreille, pardon pour les coups sur la table, à notre observateur qui a noté que leur respiration était rythmée sur leurs pas. Et donc, il a, à force de les observer, déduit que l'efficacité qu'il peut y avoir de synchroniser sa respiration avec, avec notre marche.
C'est-à-dire, chaque pas est une inspiration ou une expiration ? Enfin, comment ?
Alors, le rythme sur le plat, c'est 3-1-3-1. Donc, ça veut dire 3 pas à l'inspiration, 1 pas d'apnée, 1 temps d'apnée. 3 pas à l'expiration, 1 temps d'apnée. Voilà comment il fonctionne. Donc après, ce rythme de marche est adapté en fonction du relief. Évidemment, en montée, on est vite à ce rythme-là plus essoufflé. Donc on peut passer à 3-3 sans faire les temps d'apnée, 2-2, voire 1-1 quand ça commence à être vraiment dur. Mais l'idée, voilà, c'est d'être vraiment synchronisé avec son effort et donc d'avoir le cœur qui comprend qu'il va avoir l'oxygène au bon moment. Et donc ça optimise l'oxygénation et l'endurance.
Donc, c'est le seul moyen de marcher comme ça des kilomètres et des kilomètres. Il faut suroxygéner, en fait, son corps. C'est l'idée ?
L'idée, c'est surtout d'apprendre à respirer. Moi, je le vois avec mes sympathiques pratiquantes avec qui j'essaie de travailler cette notion de respiration. Quand elles sont concentrées, qu'elles font attention à l'exercice que je leur propose, elles respirent bien. Mais dès qu'on est en train de discuter, parce qu'on marche, on virevolte, on est un peu frivole dans sa tête, la respiration devient beaucoup moins synchronisée et du coup beaucoup moins efficace. Le carburant de nos muscles, c'est quand même l'oxygène, et si on n'en amène pas en quantité suffisante, l'efficacité est bien moindre.
Mais ça paraît étonnant, j'ai l'impression qu'il y a une dimension de suroxygénation quand même, et au bout d'un moment, quand on respire plus vite... Aussi, on a cette sensation un peu d'euphorie et puis d'être trop oxygéné. Est-ce que c'est parce qu'il y a un sur-effort que du coup ça fonctionne ou...
Il y a un temps d'adaptation. Ouais, je comprends
quand on s'essouffle, si on se le fait là, l'exercice, on va avoir des vapeurs, comme on dit.
Évidemment. Alors, il y a effectivement un moment d'adaptation. On finit par trouver son rythme. On respire trop, on a la tête qui tourne et du coup, c'est un peu contre-productif. On ne respire pas assez et on commence à avoir les muscles durs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est une pratique qui demande d'avoir un certain nombre d'exercices qui sont proposés pour se l'accaparer. Et puis de la pratique, évidemment.
Donc toi, tu mêles les deux, marche nordique avec respiration afghane.
Ouais, je propose aussi effectivement un peu... Je ne suis pas intégriste là-dessus parce que c'est vrai que la marche nordique en soi déjà demande pas mal de concentration. On a des bâtons en plus de ce que nous nécessite comme concentration la marche. Ça fait déjà pas mal de paramètres à prendre en considération. Mais c'est vrai que sur une séance de marche nordique, j'essaye de proposer, de décomposer un peu différents moments d'attention sur la pratique. Et la respiration en fait partie. Mais c'est sur 5-10 minutes, on va se concentrer sur la respiration. Et du coup, on oublie un peu de se concentrer sur le reste.
Bon, alors toi, t'es sur cette marche nordique. Qui sera sur la marche afghane ?
C'est Eric, mon collègue Eric Finiels, qui va proposer la marche afghane. Il a fait une formation il y a quelques temps. Il saurait mieux dire combien de temps, donc je ne vais pas le préciser parce que je pense que je dirais une bêtise. Mais,
on l'invite à la radio. Hein.
Ouais, il est un peu timide, il n'a pas voulu venir, mais je le représente. Il a donc été formé à encadrer cette discipline. Et l'autre jour, il a eu envie de partager ça avec les collègues. Donc on était une dizaine d'accompagnateurs de Vercors Escapade à participer à une séance, à servir un peu de cobaye. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de ça, qui est très enthousiaste. Et donc voilà, il avait à un moment donné, il vient me voir, il me dit « Moi, j'aimerais bien, j'ai une collègue qui a fait ça en Bretagne, une journée comme on est en train de proposer. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça ici. Est-ce que toi, ça t'intéresse de parler en parallèle de la marche nordique ?» Je dis « Mais oui, évidemment, mais pas de problème. Je suis toujours très volontaire pour ça. » Et donc, on s'est retrouvés à avoir deux activités.
Est-ce que ça aurait du sens que justement cette technique de respiration soit effectivement peut-être presque enseignée, j'allais dire, aux accompagnateurs en moyenne montagne, aux guides même, à tous ces gens qui accompagnent pour la marche, pour initier ou faire évoluer un petit peu les randonneurs
Ouais, je pense que ça a un peu fait évoluer ma façon d'encadrer et de concevoir effectivement le simple accompagnement.
Oui, par exemple, ouais.
Moi j'ai commencé en étant formé, on m'a dit voilà, ce qui est important c'est la sécurité du groupe, donc j'étais très bien formé, j'emmenais les gens avec ma corde dans le dos et 20 kilos de matériel.
Pour rien.
Ouais, pour rien, mais bon, les fameuses obligations de moyens fait qu'on a un fond de sac quand on accompagne un groupe, même pour aller 10 minutes dans la nature qui est obligatoire, et voilà, c'est comme ça. Et puis, à force de marcher, j'ai commencé à me dire, mais ces gens-là, ils ont peut-être besoin que je leur apprenne à juste poser les pieds, à dérouler le pas. Donc voilà, les premiers éléments que j'ai commencé à transmettre, c'est comment on place son poids, comment on gère son effort. Et puis voilà, petit à petit, j'amène la respiration, l'utilisation des bâtons. Mais effectivement, c'est très intéressant. Et si on veut rendre un peu moins fastidieux la randonnée, moi je pense que les gens qui la pratiquent savent que c'est un élément super bon pour le moral et pour la santé, et voilà, d'une manière générale. Mais on la pratique souvent à la moitié de ses capacités ou deux tiers de ses capacités. Et voilà, ces petits éléments, la respiration, l'utilisation des bâtons, la concentration, fait qu'on peut être beaucoup plus efficace. Après, moi souvent je me dis, c'est quand même quel besoin on a qui nécessite la technique qu'on va acquérir, enfin qui induit la technique qu'on va acquérir. Voilà, celui qui veut juste aller se promener, qui veut venir avec moi voir les vautours, j'aurais pas besoin de lui apprendre comment marcher pour aller voir les vautours. La balade, elle dure trois quarts d'heure et puis on fait beaucoup de temps d'observation. Par contre, si on veut être capable de se faire le mythique montée du dôme que tous les Diwak connaissent, qui fait 1500 mètres de dénivelé depuis Val-Croissant, ça peut être utile de gérer son effort et de bien savoir respirer.
Alors donc ce 22 mars, ces deux marches sont proposées, marche nordique, marche afghane, et puis se sont greffées petit à petit d'autres propositions.
Alors on s'est dit effectivement, à un moment donné, on va proposer des choses qui sont quand même plus en direction des adultes. Bon, je pense qu'à partir de les ateliers marche afghane et marche nordique, on les a ouverts à partir de 15 ans, donc voilà, ça demande quand même un petit peu de capacité et de connaissance de soi, pour comprendre un peu l'utilisation de son corps. Et donc, on s'est dit, pour qu'il y ait des parents qui soient un peu libérés pour pouvoir participer à ces ateliers, on va proposer en parallèle des randoannes. Des temps.
Même parcours ?
Pas même parcours, non, mais par contre, même temps. Voilà, les ateliers marche nordique et marche afghane durent 1h30. Ils seront déclinés 4 fois dans la journée. Donc, tant que j'y suis, je vais dire les horaires. Hein. Il y aura un départ à 9h. Un départ à 11h, un départ à 13h30 et enfin un dernier à 15h30. Et en parallèle, l'atelier de randoannes. Donc, si des parents veulent venir participer aux ateliers marche afghane et marche nordique, les enfants peuvent en même temps faire la randoanne.
Vous assurez la garderie, quoi.
C'est une forme de garderie, mais c'est une garderie active. Hein, ils vont.
Ben non, mais quand même, parce que ça veut dire que vous vous engagez à encadrer des groupes d'enfants, quoi.
Ouais, certainement qu'il y aura quand même des parents qui iront.
Mais sur la randonnée.
On a l'habitude d'encadrer des groupes d'enfants, on est compétents pour ça.
Non, mais c'est bien de le dire.
Bien sûr.
Alors, ces 4 horaires, d'ailleurs, vous permettront sans problème de voter, hein, auditrice, auditeur.
Évidemment.
C'est un jour de vote. Ce 22 mars, on ne va pas demander aux gens de partir en randonnée. Hein. C'est pas le cas.
En tout cas, de respecter leur devoir citoyen, évidemment.
S'ils le souhaitent. Et puis enfin, une rando de base. C'est quoi une rando de base maintenant ?
Alors, on l'appelait rando nature. Rando de base, ça me paraît un peu péjoratif.
Ouais, non, c'est pas beau.
Évidemment. Une rando nature un peu plus longue, avec une durée de 2h30 à 3h. Ben, l'idée, c'est d'aller profiter un peu de la nature qui s'éveille. On est au début du printemps, donc on va parler un peu des jolies fleurs du printemps qu'il y a autour de... Alors le lieu, c'est important. En même temps que je parle, je me dis qu'on va le préciser. Le rendez-vous sera à l'aire de loisirs de Marignac. Et donc la randonnée nature se passera sur la montagne de Dès, où entre autres, on peut trouver des anémones pulsatilles et autres réjouissances du printemps. Je vous laisse la surprise de ceux qui participeront à cette sortie. Un beau panorama en haut de Dès, on a un superbe panorama sur toute la vallée, le Diwa et la vallée de la Drôme qui descend. Et puis bien évidemment, un peu de passage en forêt, un peu de passage en milieu ouvert, donc un parcours assez varié qu'on a proposé.
Alors sur les ânes, qui travaille, et puis sur cette rando, on va les citer tous tes collègues.
Alors susceptible d'eux, parce que de ce côté-là, c'est pas encore déterminé, mais il y aura Fabrice Appert. Il y aura possiblement Thomas Baroin, mais il m'a dit qu'il n'était pas forcément disponible toute la journée, mais il sera peut-être là une partie de la journée. Et voilà, après, je ne vais pas dire de nom autre, vu que je n'ai pas eu d'autres personnes en contact qui m'ont confirmé. Ça va se décider pour les deux autres parties d'ici le 22.
Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu quel sens ça a pour vous de travailler comme ça tous ensemble, alors que, comme on le disait, vous êtes un peu tous des indépendants. Vous pourriez vous tirer dans les bottes, et ce n'est pas le cas.
Bah, disons qu'on le fait, on se réunit, comme ça on se tire dans les bottes dans un cadre un peu...
En buvant un coup.
Voilà, en buvant un coup, et puis après on essaie de voir comment on peut travailler ensemble. Bah, je pense que c'est assez important déjà d'avoir une vision un peu exhaustive de qui fait quoi pour éviter de se piétiner inutilement, voilà, d'être complémentaire plutôt qu'en compétition. C'est là, en regardant ces pratiques, on voit qu'il y en a un qui est plus marche nordique, un qui est plus marche afghane, un qui est plus... Après, on a tous des troncs communs, évidemment. On est tous amoureux de la nature, on est tous capables d'en parler. On ne parle pas de la même façon, mais on sait tous en parler. On est tous amoureux des hauts plateaux et des séjours. Donc après, on a chacun notre spécificité et on est complémentaires, mais on est aussi tous un tronc commun. Donc c'est vrai que se rassembler et savoir parler de tout ça, ça évite... peut-être comme tu disais, d'être en compétition inutilement. Et puis, à plusieurs, on peut aussi mutualiser les moyens. Donc, voilà, se réunir au sein de Vercors Escapades, ça veut dire mutualiser la com, ça veut dire mutualiser les contacts. Et donc, au bout du compte, on est plus efficace que seul dans son coin.
Et puisque je te tiens en tant qu'amoureux de la nature, est-ce que tu... pourrait nous témoigner de ce que tu vois des changements climatiques, par exemple, la pollution. Est-ce que cette nature est préservée? Est-ce que les gens qui y habitent y font attention?
Alors moi, je trouve que c'est compliqué comme question, parce qu'à notre échelle, je trouve que la nature a été bien restaurée, entre guillemets. Disons qu'elle a l'attention qu'on peut porter, La société, en tout cas, le territoire porte sur la nature a nettement évolué, si on regarde sur... Le territoire Diwa, oui. Je pense qu'il y a une vraie appropriation des Diwa sur leur environnement. Je vois, moi, quand je venais, gamin, me promener dans Di, voilà, on trouvait sur les bords de la Drôme, c'était une chasse au trésor de déchets et autres réjouissances. Dans la rivière, il y avait des décharges, même pas sauvages d'ailleurs, il y avait des décharges officielles dans la rivière. On se promenait en montagne, voilà, il y avait des restes de repas, des reliefs de repas. Quand on a une approche naturaliste, on cherche les reliefs de repas, mais ceux-là, ils n'étaient pas très sympathiques. Je pense que ça a nettement évolué. Je vois une vraie prise de conscience des utilisateurs du milieu. Par contre, effectivement, la société, là, si on prend un peu de recul, et je vois que tu abordes le sujet des changements climatiques, on l'appréhende très concrètement, en tout cas cette année, hein. J'ai pas fait de raquettes cette année, moi.
Évidemment, la neige, voilà. Non, mais bien sûr, la neige.
Bien sûr, oui.
Mais entre autres, est-ce que tu vois que la faune est en train de bouger, la flore comment est-ce que le permafrost tient
Je sais pas si
la montagne s'écroule. Est-ce que l'eau est moins présente?
Je sais pas s'il y a beaucoup de permafrost sur le Vercors.
Oui,
il faudrait demander à des spécialistes.
Sur le Vémont, peut-être.
Sur le Vémont.
Non,
je crois pas qu'il y ait de zone permanentement gelée de manière permanente sur le Vercors. Non, plus, peut-être qu'il y a eu, mais... Non, c'est sûr qu'il y a une évolution, et on va le voir aussi à travers la végétation. On voit bien que les arbres fleurissent de plus en plus tôt, mais se prennent quand même un coup de gel un peu plus tard, donc... Il y a des impacts sur les productions, il y a des impacts dans la nature sur... le développement, la dynamique de végétation. Alors après, c'est encore un peu insidieux, mais on voit de plus en plus de lavande à des étages de plus en plus hauts qu'on voyait pas forcément avant. Le thym gagne du terrain sur certaines expositions. Voilà, c'est des observations comme ça. Je pense que il faudrait demander plus à un spécialiste du parc pour avoir des éléments concrets. Mais c'est vrai que en tant que simple utilisateur du milieu, on voit effectivement des choses qui se passent. On voit les paysages changer, on voit... Ça m'inquiète. Je pense qu'il faut quand même prendre du recul par rapport à ça. Aujourd'hui, ça va arriver, quoi. Donc, où on est fataliste et puis on va se noyer, hein, mais voilà, il faut accepter les choses et se dire que c'est une chance ou une malchance, je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de comment on va s'adapter à ça et comprendre ces évolutions et on va les accompagner. Là, c'est plus l'enjeu des forestiers, effectivement, se poser la question de quelles essences et comment ils vont développer la forêt et l'accompagner dans ce changement. Nous, en tant qu'utilisateurs, on peut être passéiste et se dire c'était mieux avant. Et effectivement, on voit les glaciers fondre, on voit le paysage changer.
On fera plus de raquettes.
On fera plus de raquettes, peut-être qu'on fera autre chose. Je pense que c'est une réalité, voilà, on est confronté à ça. Et moi, je me souviens, j'ai été à une conférence et il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Le sujet, c'était de voir un peu la permanence de ce changement climatique l'augmentation, l'amplitude qu'il peut avoir en fonction de comment on peut aujourd'hui changer nos comportements. Il y a une réalité, si on change nos comportements, on va éviter cette amplitude, on va limiter cette amplitude. Mais une autre réalité, c'est qu'on ne peut pas empêcher la grosse machine en avant qui est en train de se faire. Et que, voilà, je me souviens, le graphe que nous avait montré l'intervenant, la courbe, alors faudrait à la radio, c'est difficile de dessiner une courbe, mais la courbe, elle devient horizontale et elle continue sur 1000 ans encore. Donc les changements climatiques qu'on est en train d'induire aujourd'hui, ils vont perdurer encore 1000 ans. Même si aujourd'hui on arrêtait tout, on mettait un gros coup de frein, on arrête de polluer et d'avoir une surproduction de gaz à effet de serre.
Voilà, le process pour nettoyer ça est très long.
Alors on peut s'imaginer, hein, l'homme, s'il a survécu, dans 1000 ans, il continuera à se dire que le Moyen-Âge de l'année 2000...
est vraiment tout foutu en l'air.
Voilà. Après, voilà, c'est vrai que c'est des questions qui sont compliquées et qui demandent de prendre un peu de recul. Il y a beaucoup de thèses, voilà. Tu vas me dire le mot parce qu'il ne me revient plus. La collapsologie, l'effondrement, etc. Voilà, c'est des thèses. Hein, voilà. Il y a des penseurs qui argumentent et qui, effectivement, ont des arguments justes pour le développer. Il y a d'autres penseurs qui pensent qu'il y a une vraie capacité de résilience et qu'on va être capable de s'adapter. Je pense que la réalité, elle va se situer un peu entre les deux. On va quand même en prendre un peu plein la figure, mais que faut rester un petit peu optimiste et croire que il y a un avenir possible sur cette planète, mais cet avenir, il va changer. Voilà, il ne sera pas celui qu'on connaît. Quoi.
Est-ce que les utilisateurs, parce que tu situais l'ensemble des accompagnateurs de moyenne montagne finalement comme utilisateurs de ce milieu? Et les utilisateurs de vos services, est-ce que c'est des questions qui se posent? Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'on continue à aller dans la nature pour la consommer ou plutôt pour la respecter, la comprendre? Il y a deux types de touristes, quoi. On cite tout le temps les stations de ski, mais les gens ont l'impression dans des parcs naturels magnifiques, mais ils ne s'en rendent pas vraiment compte souvent.
Moi, si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a ces sujets de discussion, ils ne viennent pas quasi systématiques. Mais il y a deux sujets de discussion sur lesquels je suis interrogé dans la région. Il y a celui-là et puis il y a évidemment la présence du loup. Les gens, ils viennent maintenant dans la nature avec une représentation. Ils ne sont pas même le citadin qu'on pourrait voir avec un côté un peu péjoratif quand on est amoureux de la nature, a une culture, a une connaissance de ces débats-là. Une connaissance qui demande d'être approfondie. Et moi, ce qui m'est demandé souvent, c'est qu'est-ce qui se passe ici, un peu comme tu es en train de le faire. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est notre rôle aussi d'être un peu des ambassadeurs de cette compréhension. On est un peu des interprètes, voilà, de cette compréhension de la nature locale.
Et merci pour ça.
Merci de venir nous en parler, on est toujours très volontaires.
Alors 22 mars, les marches à suivre, proposition des différents accompagnateurs de moyenne montagne avec Vercors Escapade.
C'est nous.
On s'inscrit où, comment, on réserve ou on va directement à l'aire de Marignac?
Non, on réserve, ouais, bien sûr. Donc la réservation est faite par l'intermédiaire de l'office de tourisme de Dee. Mm-hmm. Je peux donner un numéro?
Ah oui.
Alors le 04 75 22 03 03. La réservation est obligatoire en amont.
Donc
mais
on ne passe pas par Vercors Escapade, c'est uniquement l'office du tourisme.
Enfin, vous pouvez appeler Vercors Escapade si vous voulez des renseignements.
Oui, ils arriveront à vous renvoyer vers l'office, quoi.
Ouais, et puis l'office vous renverra sur Vercors Escapade si vous avez des questions un peu pièges.
Très bien.
Ça marche dans les deux sens. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire, du coup.
On était à ces numéros.
Oui, ça y est, jusqu'à la veille, voilà. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille. Vous pouvez prendre le temps de vous décider. Et après, sur place, au risque de... Voilà, ça c'est important aussi de le préciser. Nous allons limiter les ateliers... En tout cas, marche afghane et marche nordique à 12 participants par atelier. Rando Anne a 15 participants et Randonnée Nature a 15 participants. Donc ça veut dire que si vous arrivez qu'il n'y a plus de place, ben, comme on aime faire notre boulot correctement, on se dit qu'à 25, on ne peut pas avoir un contact intéressant avec les participants. Donc on ne pourra pas vous prendre si vous n'avez pas réservé.
Un prix ?
Évidemment, donc un prix pour les ateliers Marche Afghane et Marche Nordique, c'est 8 euros l'atelier. Si vous souhaitez participer aux deux, c'est 14 euros pour les deux. Pour les randos à venir avec un âne, c'est 7 euros. Et pour la randonnée nature, c'est 15 euros pour un participant. Si vous venez en couple, c'est 25 euros pour les deux.
C'est très doux comme prix.
Voilà, c'est prix de printemps.
On a tout dit ?
Pour moi, j'ai tout dit, mais bon, si tu me trouves des questions, j'ai encore parlé, mais je pense qu'il faudra que je revienne une autre fois.
Bah non, mais c'est ça, on s'en garde, il faut toujours s'en garder un petit peu sous le coude. Comme ça, tu reviens, et puis ça nous permet de suivre un peu ce qui se fait. Merci Sébastien.
Merci Baptiste, à bientôt.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.